1, 2, 1, 2, test, test, micro.
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 Microscopie.
Les documents de microscopie. Camille Geoffrey, Pauline Mocor, Édouard Zambeau.
C'est par là. Je vais vérifier qu'il n'y ait personne dans la chambre parce qu'on est à deux dans les chambres.
Vous êtes à deux dans les chambres, tu trouves ça... Tu préfères être à deux ou tu préfères être seule?
Honnêtement, je préfère être seule, mais en ce moment, on n'a pas le choix. Ils sont en train de refaire le centre. C'est un peu difficile au niveau de l'intimité. Tu peux appuyer sur le bouton, s'il te plaît.
Bonjour et bienvenue dans Microscopie. Elle est précieuse, l'intimité, même quand on est handicapé. En ce moment, le centre Bellevue de Marseille, une maison d'accueil spécialisée pour handicapés, est en travaux. Alors, pour les 42 pensionnaires permanents, l'intimité est un peu mise à mal. Temporairement, car dans ce centre créé dans les années 70, la question du droit à l'intimité, à toutes les intimités, est au centre des préoccupations. Un souci qui fait de Bellevue un établissement à l'avant-garde pour la reconnaissance du droit des personnes handicapées à l'intimité et donc à la sexualité. Mais aujourd'hui, l'avant-garde en matière de reconnaissance du droit à la sexualité des handicapés, c'est de ne pas entraver les volontés individuelles de fermer les yeux en quelque sorte. Accompagner, aider les personnes handicapées dans leur sexualité serait hors la loi. Cette situation étonnante, les associations s'en sont saisies il y a plus de 2 ans maintenant. Beaucoup d'entre elles réclament la reconnaissance du droit à la sexualité pour les handicapés et la mise en place des dispositifs légaux permettant l'exercice de ce droit. Car bien sûr, qui qu'on soit, handicapé ou valide, on a tous besoin d'amour, on se pose tous des questions sur nos rapports affectifs, sur notre sexualité aussi. Alors aujourd'hui, dans Microscopie, nous allons essayer de comprendre comment cela se passe quand on a un handicap. De manière sibylline, on pourrait répondre de la même manière que pour tout le monde, sauf que tout est compliqué, beaucoup plus compliqué. Pour les handicapés eux-mêmes, évidemment, mais aussi pour leurs familles. Quelles réponses peuvent apporter les familles face à la volonté d'un fils, d'une fille handicapée? De quelles solutions dispose le personnel des institutions spécialisées? Autant de questions que le collectif Handicap et Sexualité pose de manière lancinante, autant de questions auxquelles Patrick Goé, le délégué interministériel aux personnes handicapées que vous entendrez dans cette émission, s'est engagé à répondre d'ici l'automne prochain. En attendant, Pauline Mocor s'est glissée dans les pas de certains des pensionnaires du Centre Bellevue. Elle a questionné de nombreuses personnes handicapées sur leur intimité et leur sexualité, a interrogé les familles et les professionnels. Voici donc « S'aimer au-delà du handicap », un reportage de Pauline Mocor pour Microscopie.
J'ai besoin de quelqu'un pour me laver, j'ai besoin de quelqu'un pour m'habiller, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me laver les dents, même si j'en fais une partie toute seule, et encore les dents, c'est pas ce qui me gêne le plus.
Constance, 28 ans. C'est quoi qui te gêne le plus?
C'est surtout ce qui est toilette intime. Par exemple, quand j'ai une période une fois par mois, j'essaye de faire respecter que ce soit une femme qui vienne me lever, tu vois.
Parce que c'est pas toujours une femme, en fait, qui s'occupe non. de nettoyer tes parties non. intimes.
Non, c'est pas toujours une femme. Des fois, on n'a pas le choix. C'est bête ce que je vais te dire, mais j'ai du mal à écarter les gants à cause de mon handicap. C'est pas moi qui m'occupe de mon corps, c'est ça qui me gêne le plus.
Le fait que ce soit pas toi qui t'occupes de ton corps, mais une autre personne, tous les jours, ça rend ton corps un peu étranger, c'est ça?
C'est ça, un peu étranger et un peu du mal à l'accepter, même si t'es obligé plus ou moins de l'accepter. J'ai du mal à accepter mon handicap aussi à cause de ça. Il y a des fois que j'ai envie de dire, mais laissez-moi tranquille, c'est trop difficile. L'intrusion, on est ras-le-bol. L'intrusion, ça a des limites. Mais je sais pas le quoi. Mais dans la vie intime avec un copain, non. Et je crois que c'est même pas la peine.
Est-ce que t'as déjà eu des histoires d'amour avec des garçons?
Oui. C'était quelqu'un que j'aimais bien, avec qui j'aimais bien être, avec qui il s'est créé des affinités. Ça a duré quelque temps. Et après, il y a eu un espèce de blocage. Est-ce que c'est lié au handicap et que je peux pas faire comme je veux? Est-ce que c'est parce que je suis ici? J'en sais rien. Ça m'angoisse.
Qu'est-ce que c'est qui t'angoisse?
Le fait d'avoir peut-être besoin de quelqu'un et je sais pas comment ça pourrait se passer.
Ouais, ce qui t'angoisse, c'est d'avoir besoin d'une tierce personne pour t'aider, toi et ton compagnon, à avoir une relation sexuelle.
Si je tombe amoureuse d'une personne handicapée, s'il se passe vraiment un acte sexuel, il faut qu'il y ait une troisième personne. Moi, je vois les choses comme ça. Et c'est quelque chose qui me bloquerait encore plus. C'est quelque chose que je peux pas.
Allô?
Oui, c'est moi. Ok, super. Bonjour. Voilà.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
Ça va bien?
Oui.
Bonjour. Ça tend.
Voilà.
Hop.
Elle a une infirmière le matin qui vient l'aider pour la toilette. Et elle a une auxiliaire de vie qui vient l'aider le soir pour la douche. Pour moi, c'est une question de sécurité.
Mais est-ce que c'est juste une question de sécurité ou est-ce que c'est pas aussi pour maintenir quand même peut-être une relation entre vous qui soit basée plus sur le désir, sur une vie de couple, de séduction, tout ça?
Pour moi, c'est juste une question de sécurité.
Ouais. Mais si par exemple vous deviez laver votre compagne, est-ce qu'il n'y aurait pas le fait que, voilà, normalement, en couple, deux personnes valides, elles n'interviennent pas l'une avec l'autre dans la toilette de l'autre, en fait. Et pour vous, est-ce que c'est pas important aussi de garder ces moments de toilette seul face à soi-même, en fait?
Non.
Vous, ça vous dérangeait pas, en fait, d'intervenir dans la toilette de votre compagne?
Non, moi, ça me dérangeait pas.
C'est peut-être aussi les conséquences du collectif. Dans le collectif, quand une personne en situation de handicap ne peut pas faire sa toilette seule, c'est un professionnel qui l'aide. Donc, depuis tout petit, ils prennent l'habitude un petit peu de perdre ce regard d'image vis-à-vis de leur corps avec le temps. Par exemple, là, le fait de la douche, où il donne un coup de bain à sa compagne, c'est vrai qu'en temps normal, un couple, chacun a son intimité, sa douche propre. Moi, je me vois mal intervenir dans la douche intime de mon épouse. Voilà, mais ça, je leur dis. Voilà, on discute, mais non. Donc là, quand nous on voit qu'à ce moment-là il intervient, ben qu'est-ce qu'on va faire nos professionnels? On va dire attendez, stop. Là, je crois que c'est son affaire, c'est pas la tienne, monsieur. Donc est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse intervenir une infirmière? Ok, et on fait intervenir une infirmière et tu t'emmènes pas, quoi. Alors que lui, il voyait ça tout à fait normal. Pourquoi? Parce que dans le collectif, ils sont tellement habitués, pour lui, il n'y a plus cet espace d'intimité et de pudeur. Or que nous, on va essayer de leur redonner cette pudeur. C'est ce côté intime.
Je crois qu'il y a beaucoup de pudeur chez les femmes.
Michèle Dréan, éducatrice au Centre Bellevue.
Il y a un rapport à la réalité qui est complètement différent de chez les hommes. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles sont handicapées, elles savent qu'elles n'auront jamais de relations sexuelles. Moi, quand je suis rentrée dans le centre, donc il y a plus de 20 ans, une jeune femme qui a eu un accident de la vie et qui malheureusement porte une couche, parce que les séquelles du handicap font que. Et elle me disait jamais, je n'aurai jamais de vie affective, je n'aurai jamais d'amoureux. Je n'aurai jamais de relation sexuelle parce que je porte une couche. Et elle disait non, je peux pas, ne serait-ce que par rapport à moi, ma personne, l'image qu'on peut avoir sur moi, je ne peux pas. Donc elles se l'interdisent complètement. Elles font le deuil de ça très vite.
Moi, ce que je cherche, en fait, c'est une aide pour vivre ma vie de couple avec lui.
Céline, 35 ans.
J'ai eu, on va dire, des difficultés à construire ma vie de couple, même si elle est atypique, parce qu'il est loin de moi, il est à 800 km, il est handicapé lui-même. Donc, au point de vue de les relations de couple, ça va, c'est-à-dire on s'entend très bien, point de vue relationnel, on va dire, mais point de vue relation sexuelle, c'est un peu délicat. Il a une maladie génétique évolutive, donc la maladie évoluant, on est obligé d'adapter notre sexualité à l'handicap. Et ça, c'est compliqué et c'est frustrant pour moi. On n'a pas trouvé, nous, tout seuls, en tant que couple, le moyen que moi je donne du plaisir et que moi j'en éprouve à l'heure actuelle. On veut trouver des réponses pour gérer notre vie de couple.
Et tu penses qu'une accompagnante ou un accompagnant sexuel, ce serait une solution pour vous aider à avoir des relations sexuelles?
Peut-être. Pour ça, je pense que ça peut nous aider. Nous, en tant que couple, aussi avoir des techniques, pour moi, lui apporter du plaisir, on va dire. Donc lui, il est frustré, je le sais, et moi, je suis frustrée par-dessus. Donc bon. Donc il m'a dit, moi, je pourrais apprendre des traitements médicamenteux pour... Je lui dis non, je veux pas. Je veux pas, je veux qu'on trouve des solutions. Je veux qu'on se batte. Je veux pas qu'il prenne des médicaments pour se freiner sa libido. Parce qu'on lui a proposé. Ça a failli clasher à cause de ça, mais bon, c'est pas... Ça s'est rétabli et bien rétabli pour être vu de la complice relationnelle. Et puis le reste, on a dit qu'on va voir petit à petit justement les solutions.
Oh, Choub, alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces fêtes?
Qu'est-ce que je vais faire
Tu vas draguer un peu les gonzesses?
Je trouve toujours personne, hein.
Ouais, moi c'est pareil. Moi, allez sans déconner, j'ai dû avoir des relations amoureuses avec 3 personnes.
Une personne. Ça fait 9 ans que j'étais avec. Et depuis, j'ai du mal à contacter. Donc,
ça c'est notre compliqué.
Par exemple, quand je lui téléphone, je l'entends, mais je ne l'envoie pas. Ça, des fois, ça me rend fou, tu vois.
C'est dur.
Oui.
Ouais, mais tu es toujours en contact.
Oui. Oui, alors... mais c'est plus pareil. C'est plus pareil.
Oui, mais est-ce que, par exemple, tu pourrais pas organiser... Elle pourrait pas venir un jour, une journée avec toi, à Bellevue ou dans une
série? Oui, je vais essayer, c'est sûr.
Elle est handicapée,
oui,
comme toi?
Oui, handicapée. Voilà.
À chaque fois que je me prenais dans ses bras, j'avais plus envie de lui dévoiler mes sentiments pour lui.
Salima, 19 ans.
J'avais envie de vraiment passer à l'acte avec lui.
Et vous n'avez pas pu passer à l'acte parce qu'il y avait toujours les éducateurs qui vous surveillaient?
Oui, voilà. Et moi, je voulais... à l'acte. Mais c'est lui, il s'est dégonflé. Donc, on a pas fait.
Pourquoi il s'est dégonflé, il t'a expliqué?
Alors ça, je sais pas. Bon, c'est vrai que les conditions étaient pas trop convenables. On était beaucoup surveillés. Il y avait des éducateurs qui nous surveillaient. Les autres, ils venaient nous voir, donc on n'avait pas trop un moment tout seul pour le faire.
Microscopie, la société au microscope.
Les personnes handicapées sont dans une situation d'isolement. Isolement social.
Alain Djami, chercheur à l'INSERM.
Qu'elle soit à domicile ou qu'elle soit placée dans des institutions. C'est beaucoup plus les situations où les gens sont placés en institution qui sont problématiques, dans la mesure où la vie en institution a un effet négatif sur la possibilité d'avoir des relations sexuelles et des relations affectives. Et l'étude qu'on a réalisée il y a quelques années met bien en évidence que, quel que soit le type de handicap dont elles sont porteuses, quand elles vivent en institution, elles ont beaucoup moins de possibilités d'avoir des relations sexuelles que si elles vivent à domicile. Je crois qu'il y a à peu près 20-30% des personnes qui vivent en institution qui ont ou qui ont eu un partenaire sexuel. Contre 90% de la population générale, si vous voulez, qui a un partenaire sexuel. Dans ces institutions, c'est vraiment l'intérêt de l'établissement et la protection des formes d'organisation qui va primer sur le bien-être des individus qui sont accueillis, si vous voulez. Donc, si une institution n'est pas pensée, si vous voulez, avec des chambres, par exemple, pour recevoir des couples, il va être quasiment impossible pour des gens vivant dans ce type d'institution d'établir une relation de couple. Ce qui signifie que ce qui est interdit, le plus interdit dans ces institutions totales, c'est ce qu'on pourrait appeler la vie sexuelle normale, la vie sexuelle banale de la majorité de la population, c'est-à-dire le couple hétérosexuel. Inversement, il n'y a pas d'interdit sur les relations homosexuelles et il y a une certaine tolérance par rapport à la masturbation. C'est-à-dire que la masturbation doit être encadrée. Ce qui est intolérable dans les institutions de personnes handicapées mentales, notamment, ou de malades mentaux, c'est la masturbation au public. Donc ça, c'est combattu. Mais par contre, si ça se passe dans la chambre, tout seul, etc., ça ne gêne personne, si vous voulez. Et les relations homosexuelles et la masturbation sont toujours plus acceptables que l'établissement de relations hétérosexuelles. Ce qui crée un décalage par rapport à la norme sociale dominante de la vie sexuelle des sociétés modernes, qui est la vie en couple hétérosexuel.
Leïla, alors, oui. Comment tu vas depuis que je t'ai pas vu?
Ça va, merci. Super. Ah. Comment ça, demain tu as le bilan, ça y est?
Ah, demain tu as le bilan, moi de bon.
On s'est rencontrés dans un centre de rééducation.
Céline.
Donc c'est lui qui est venu dans la mienne de chambre. On a fait ce qu'on avait à faire, mais à 6h du mat, il a juste parlé. Parce qu'on ne pouvait pas... Si l'infirmière le fait dans ma chambre, on se faisait virer. On se faisait virer du centre de rééducation. Tous les médecins étaient au courant et tout. On a joué serré, là, parce que c'est interdit à l'hôpital. Dans le milieu hospitalier, c'est interdit. Et je vais aller le voir en centre de rééducation. Je me demande comment on va pouvoir faire ça dans un centre de rééducation, bien qu'on l'a déjà fait, mais bon, ça c'est autre chose. Mais on ne s'est pas fait virer, on ne sait pas comment. C'est compliqué, quoi.
On parlera après. Tu laisses faire, on parlera mieux après.
On laisse les gens vivre leur vie.
Michel Bréant.
Donc, il y a des relations entre résidents. Dans cette maison, il y avait la possibilité de vivre en couple. Il y avait tout été mis en œuvre pour que les résidents puissent vivre leur vie affective.
Concrètement, comment ça se passe la nuit? Les résidents se rencontrent
Certainement. Moi, je ne sais pas, je n'y suis pas la nuit. Mais quand on travaille, on ne dépasse pas 22 heures. Et donc, à partir de 22 heures, il ne reste que deux veilleurs dans la maison qui couchent tous les résidents, donc qui sont occupés dans les chambres. Ce qui se passe, en vérité, personne ne le sait. Voilà. On peut croiser un résident dans le couloir, mais il peut tout à fait aller aux toilettes ou aller boire un verre d'eau en bas s'il a soif, à partir du moment où il peut se lever seul. Mais après, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis tant mieux, quoi, je veux dire, ils ont au moins cet espace-là qui est à eux complètement, voilà. Il y a des personnes ici qui peuvent se lever seules, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui peuvent aller dans la chambre d'un autre résident, ils peuvent prendre des rendez-vous, ils ont des codes entre eux pour se faire comprendre. Et puis voilà, il y a un résident qui se déplace dans la chambre d'un autre, et ça se passe comme ça, naturellement, quoi, comme nous. Je veux dire, on n'a pas non plus de compte à rendre à qui que ce soit en ce qui concerne notre vie affective. Eh bien, eux font pareil. En tout cas, nous, on leur permet de faire pareil, quoi. Donc, la politique de l'institution, c'est quand même que ces personnes qui sont très handicapées puissent vivre une vie la plus normale possible, quoi. Et ils trouvent des réponses entre eux, hein. On n'a pas non plus, en tant qu'institution, à se creuser les méninges pour savoir comment on va combler la vie affective de telle ou telle personne. Ils trouvent des solutions entre eux et ça se passe assez bien, quoi.
Mais quelles solutions, par exemple?
Il y a des couples, hein, qui se forment entre eux. Après, moi, je n'ai pas à divulguer ce qui se passe dans cet établissement, hein. Je veux dire, ça fait partie de leur vie. Mais il y a des choses qui se passent entre eux, voilà.
Là, de ce qu'ils considèrent comme une sorte d'hypocrisie, les personnes handicapées, leurs proches et certains professionnels s'organisent. À Marseille, par exemple, des parents constituent des réseaux de bénévoles pour accompagner leurs enfants rencontrer des prostituées. L'association Choisir sa vie travaille avec une masseuse professionnelle à l'élaboration par la pratique d'un service d'accompagnement sexuel. C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de ce reportage de Pauline Mocor. La seconde partie, c'est tout de suite, dans 3 minutes, juste après le flash. À tout de suite, donc.
Microscopie à suivre.